Alain nous le disait précédemment dans sa biographie d'Alan Moore, Suprême est une des œuvres majeures, un des tournants de la carrière d'Alan Moore. Pourtant, il faut voir que quand la série est lancée, elle est loin d'être le chef-d'œuvre que Moore va en faire. On peut même dire que cette série revient de très loin. C'est peut-être un des plus gros nanars qu'on nous ait fait dans les années 90. Au départ, c'est une série qui est créée et écrite par Rob Liefeld et dessinée par Brian Murray, qui sort en novembre 92, déjà avec un volume numéro 2. Alors tout le monde dit « il n'y a jamais eu de volume 1 » et Liefeld répond « c'est normal, mon héros est un personnage qui était là pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est parti en exil dans l'espace et qui revient. Plus tard, je vous ferai un volume 1 sur son origine. » On n'a jamais vu sortir ce volume 1, mais on a surtout pu constater que le personnage que crée Liefeld est très loin du stéréotype du super-héros vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Ce personnage est bourrin, avec des aventures trash, et vraiment, c'est d'un goût qui est souvent très douteux. Le personnage se prend pour un dieu, estime avoir droit de vie et mort sur tous ses adversaires, et au moins, quand il tue quelqu'un, il y met un certain panache. Il plante sa main dans le corps de la personne en face, attrape la colonne vertébrale et la ressort par devant.
Oui, c'est classe, ça. C'est tout le contraire de Superman, effectivement. Là.
Ah ben, ça, c'est très, très classe. Alors, en plus, il faut quand même avoir un dessinateur avec un style assez particulier pour essayer de rendre ça vraisemblant. Là, ça ne l'est pas du tout. Les os ressortent nickel, comme si le personnage avait bouilli. Il y a un crossover avec une série qui s'appelait Bloodstrike à l'époque, en gros, c'était une équipe de personnes qui partaient en mission suicide. Et donc, ils avaient pris l'ADN de ces personnages-là. Et il est régénéré à tout bout de champ dans des tubes. Et donc, il leur recréé des corps pour chaque mission parce que de toute façon, ils se faisaient trucider à chaque fois.
Et ils s'en rappelaient ?
Ah ben, ils s'en rappelaient parce qu'effectivement, ils avaient les souvenirs avant quand ils les avaient téléchargés. Enfin, c'était assez grand guignolesque, et les combats avec Suprême donnaient quelque chose d'assez surréaliste. Donc on n'a jamais eu de volume 1. Le seul qui se soit vraiment penché sur les origines du personnage, c'est Kes Giffen. À l'époque, il a fait une mini-série qui s'appelle Legend of Suprême. Et déjà là, on commence à voir le point fort de Rob Liefeld, c'est qu'à défaut d'être un scénariste ou un dessinateur de talent, c'est un bon éditeur qui sait de qui s'entourer et qui sait avec qui travailler. D'ailleurs, très vite, il va refiler la série Suprême à Eric Stephenson et Jim Valentino, qui sont deux des personnes qui ont dirigé Image ces dernières années après le départ de Rob Liefeld. Et ils vont reprendre la série Suprême, alors avec toujours le même twist de départ, de dire « le Suprême qu'on avait depuis le début de la série n'est pas le vrai, on va vous faire revenir le vrai ». Je crois qu'il y a eu trois personnages de Suprême différents, dont un qui est devenu, qui était sa fille, et qui est donc devenu Lady Suprême, qui a eu deux épisodes par Terry Moore, le scénariste de Stranger in Paradise, qui refuse même de les mettre dans sa biographie tellement il est fier de cette série qu'il n'a jamais achevée. Donc c'est quand même une série qui vraiment est au ras des pâquerettes, dont tout le monde se fout allègrement en disant que vraiment on n'avait jamais fait quelque chose d'aussi mauvais. Et là, oui, Rob Liefeld sait qu'il tient entre les mains un des comics les plus mal aimés du monde, et il arrive à dégoter Alan Moore pour l'écrire, et il lui donne carte blanche. Donc Moore fait ce qu'il veut, et la seule chose effectivement qu'il voit dans Suprême, c'est que le personnage était une copie de ce qui avait été fait au préalable sur Superman, et donc il décide de pousser au plus loin l'analogie avec Superman. Dans un premier temps, il va faire ce qui a été Suprême Story of the Year, donc les 41 à 52B. Bah oui, ils voulaient faire une série en 12 numéros, mais ça a débordé, donc ils ont fait un 52A, 52B, pour pas dire effectivement qu'il y en avait 13.
C'est quoi là ? Oui, s'il n'y a pas de différence en fait.
Voilà, il y a bien 13 numéros, même si effectivement, comme c'était censé être sur une année, ils voulaient qu'il y en ait 12, puisque le titre était censé être mensuel. Donc à l'époque, Robbie Feld a des problèmes avec Image. Il se fait virer d'abord, repart chez Extreme Studio, la société qu'il avait montée en parallèle. Pas Extreme Studio, excusez-moi, Maximum Press. Et enfin, ils deviennent Awesome en s'associant avec le scénariste Jeff Lubb. Toujours est-il que Moore fait une série qui va vraiment marquer, avec quelque chose de très référentiel, qui n'est pas forcément facile à faire lire à des néophytes, parce que on a quand même un style graphique qui va varier, avec des histoires qui vont être complètement dans le style années 40, et parfois très dur à lire pour quelqu'un qui ne connaît pas les Superman de l'époque. Il y a un côté un peu ringard, mais volontairement ringard dans toutes ces histoires-là. D'ailleurs, il est sorti sur papier glacé, et pour que ça fasse vraiment un vieux comics, eh bien, le fond de page était colorié en jaune.
C'est bien kitsch, ça.
Voilà. Et donc, effectivement, il faut quand même réussir à se fixer là-dessus. Le dessinateur, c'est Rick Veitch, qui, selon les moments, va prendre des styles qui vont varier des années 40 aux années 70 pour coller à l'époque du souvenir de Supreme. Et donc, on a quand même une série qui est agréable à lire pour tous les fans de Moore, tous les fans de comics et de Superman, mais qui n'est pas forcément à mettre entre tous les mains pour les néophytes. En tout cas, cette série a redoré l'image d'Alan Moore. Alan Moore était effectivement un peu has-been, entre guillemets, suite à son chef-d'œuvre qui était donc Watchmen, parce qu'il n'a rien fait qui se soit réellement vendu derrière. Et que les projets qu'on lui avait donnés chez Image ou qu'il avait lancé lui-même avaient déclenché l'inintérêt profond. Todd McFarlane, à propos de son Spawn, a dit oui, enfin il a juste inventé les enfers, on va pas imaginer les enfers, d'autres l'avaient fait avant lui, on va pas en faire un plat. Toute la série Spawn repose en moitié sur ce qu'elle a fait Moore en un épisode, mais effectivement, à l'époque, on pouvait encore se permettre de cracher sur Moore. Liefeld, lui, a su que de toute façon, Moore ne pouvait pas gâcher sa série et lui a donné carte blanche. Le résultat de cette première année est vraiment concluant. Et dans la deuxième année, ils vont pouvoir faire des choses un peu plus poussées avec Alan Moore. Alors Chris Prusse, qui était dessinateur de la série, ne va pas rester très longtemps, mais de toute façon on va lui trouver des successeurs, et Rick Veitch assure toujours certaines scènes de flashback. L'association avec Jeff Lubb de Rob Liefeld a eu des effets bénéfiques sur le nombre des auteurs qu'il a pu ramener. On a notamment un épisode de Jim Starlin ou Matt Smith qui reprend la suite après Chris Prusse. Seulement, financièrement, la société est très fragile. Du coup, Awesome ne se relance pas forcément dans une grande histoire. La première qui est faite va juste se terminer pour passer ensuite à des histoires courtes. Il faut dire qu'entre-temps, le titre Supreme s'est arrêté faute de vente et qu'il a dû être relancé plus tard sous le nom de Supreme The Return, devant la manière dont tout le monde réclamait à corps et à cri le retour du titre. Donc le premier arc s'est arrêté au 52B, ils arrivent au 53 et la série s'arrête dès le 56 avant de revenir donc en 6 numéros de Supreme The Return avec tous ses auteurs. Des histoires cette fois-ci plus courtes, où on s'intéresse davantage à la vie privée de Supreme, qui est un dessinateur de comics. On retrouve ce concept de l'image sans fond, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le personnage feuillette dans son comic book les histoires dont il est le héros. Donc il se voit en tant que personnage en train de vivre la scène qu'il vit, dire ce qu'il est en train de dire. C'est un concept qu'on a revu par la suite dans la série Heroes notamment, où ils avaient réutilisé ce concept. On le revoit également dans une autre série qui s'appelle Final Crisis Legend of the Three Worlds, dont on vous parlera prochainement probablement dès qu'elle sera annoncée en version française. En tout cas, Moore se fait vraiment plaisir là-dessus, nous fait des histoires très référentielles toujours, mais courtes, donc c'est plus facile à appréhender que quand on fait une série sur un an. Il y a notamment un épisode qui est très drôle sur Radar, donc qui est l'équivalent de Crypto, le super chien, et là Radar se met à copuler.
Et, c'est un peu trash toujours ces histoires.
Et le mais non, parce qu'on le voit pas copuler. Sauf que Radar a un super métabolisme. Et donc ses spermatozoïdes sont super rapides.
Ah oui.
Et ils fécondent les femelles super rapidement.
Ah.
Et du coup, on se retrouve avec plein de petits chiots partout dans la ville. C'est les 101 Dalmatiens version Superman. Voilà, on a un épisode qui est très drôle, qui est dessiné par Matt Smith. On a aussi un épisode qui est consacré à son némésis, qui est donc celui qui est fait par Starlin. Et puis, le dernier épisode de la série, il affronte Dieu.
Carrément.
Et il affronte Dieu, et Dieu a le visage de Jack Kirby. Donc, c'est le King, effectivement, qui va servir de référence. Les puristes râleront en disant que c'est Liefeld qui fait l'épisode. Bon, il y a plus de pages de Rick Veitch que de Liefeld. Et en plus, Veitch prend un style qui est volontairement très contemporain dans celui-là, donc qui est plus facile à lire que dans les autres épisodes qu'il a fait. En tout cas, Supreme est un chef-d'œuvre, ça c'est indéniable. Au moins pour la partie qui va du 41 à la série Supreme The Return. On ne peut que vous inviter à vous jeter donc sur les deux tomes qui sont sortis chez Delcourt. Le premier était sorti voici quelques années. On attendait toujours un hypothétique tome 2 et il est donc sorti au mois de juillet. Voyez, il était sorti en août 2003 le premier tome. Ça fait 4 ans. Là, on a enfin le deuxième tome. Je vous invite quand même à les prendre. Si vous avez été un peu perdu par la lecture du premier, essayez quand même le deuxième, il est beaucoup plus facile d'accès. Et c'est quand même quelque chose que tout amateur de comics doit avoir dans sa bibliothèque. C'est pas forcément ce qu'on va faire lire à un débutant parce que c'est, encore une fois, très référentiel. Mais vraiment, c'est un plaisir de lecture non dissimulé.
Voilà. Et pas aussi facilement que les Watchmen. Hein.
Alors, Watchmen, c'est moi, je connais des gens qui n'ont pas réussi à le lire facilement. Non, il y a des choses plus faciles à lire parce que là, on est vraiment dans du très référentiel. Et autant dans Watchmen, il fait référence à des règles du genre. Là, il y a les scènes de Rick Veitch qui sont un peu un plagiat voulu de choses qu'on a pu voir avec d'autres super-héros. Et c'est vrai que ça n'a pas le même attrait que sur Watchmen où fatalement on était sur des personnages neufs, on n'avait pas besoin de référence pour lire Watchmen.
Oui, c'est vrai, oui. Voilà. C'est l'avantage.
Alors que là, c'est vraiment très référentiel. Pour des gens effectivement qui n'ont pas lu beaucoup de super-héros, on aura d'autres choses à leur faire lire. Même en super-héros, il y a des choses beaucoup plus abordables de Moore, notamment Captain Britain, dont je vous parlais il y a quelques temps et qui est sorti donc chez Panini, je ne sais pas s'il est toujours disponible. Et donc le Captain Britain d'Alan Moore est là vraiment très facile à lire et à apprécier.